Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Oui, jusqu'à 20h, on parlera de ces annonces de Jean Castex. Elles sont importantes avec le journal et à 19h20, le grand débat du Club des Idées. Émission spéciale sur ce couvre-feu à 18h partout en France. Comment va-t-on pouvoir organiser nos vies, faire nos courses, récupérer les enfants à l'école? Et pourra-t-on aussi demander des aménagements à nos employeurs? On vous donnera toutes les réponses pour vous organiser au mieux. D'abord le journal avec Isabelle Millet. Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Le couvre-feu s'appliquera à compter de 18h à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours.
Un couvre-feu avancé à 18h dans tout le pays, c'est donc l'option retenue par le gouvernement pour tenter d'enrayer la propagation du virus.
En revanche, pas de confinement pour l'instant, mais une vigilance particulière aux frontières.
Et des précautions supplémentaires dans les écoles. On vous dit tout dès le début de ce journal sur cette nouvelle salve de mesures annoncée ce soir par le Premier ministre.
La France, mais aussi le reste du monde, bataille contre ce virus. Avec Didier François, on s'intéressera à l'Afrique, ce continent relativement épargné pour l'instant par le Covid, mais où tout pourrait basculer très vite.
On vous parlera aussi de cette affaire de trafic d'armes. 10 personnes interpellées en France, dont 2 militaires en activité. Le réseau est soupçonné d'avoir fourni des armes à des trafiquants de drogue et à des sympathisants d'ultra-droite. Et puis le coup d'envoi du mondial de handball ce soir, Norvège-France et des Bleus qui entament la compétition avec moins de certitude après une année décevante.
Le froid est de retour, Anissa.
Oui, demain, couvrez-vous. Effectivement, nous aurons des valeurs négatives le matin dans l'Est avec la neige qui reste encore très présente demain et 11 départements toujours en vigilance orange.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et on peut donc voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Pas de confinement donc, mais un couvre-feu avancé pour tout le monde.
Oui, c'est la piste qui a été retenue, comme Europe 1 vous l'indiquait, dès mardi.
Sur l'ensemble du territoire métropolitain, le couvre-feu s'appliquera à compter de 18h à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours. Nous appliquerons donc cette mesure dans tout le pays, car la situation a évolué ces derniers jours. Alors que la reprise épidémique était concentrée fin décembre sur certains départements, la circulation virale concerne désormais tout le territoire. À l'heure où je vous parle, la situation sanitaire n'exige pas que nous mettions en place un nouveau confinement. Mais je veux être parfaitement clair avec vous. Si nous constatons dans les prochains jours une dégradation épidémique forte, nous serions conduits à décider sans délai d'un nouveau confinement, car nous devons, comme nous n'avons cessé de le faire depuis le début de cette crise, nous préparer à toute éventualité.
Se préparer à toute éventualité, dit le Premier ministre, car la situation en effet est loin d'être stabilisée.
Victor Delande, on commence donc par ce couvre-feu, 18h, sur le même principe que celui que nous connaissons déjà. À 20h.
Oui, un couvre-feu national à partir de 18h qui commencera dès samedi. Le Premier ministre Jean Castex s'est appuyé sur une donnée très intéressante pour justifier cette mesure. Dans les départements qui ont mis en place un couvre-feu, les contaminations augmentent 2 à 3 fois moins rapidement que dans les autres départements. Une mesure de freinage censée réduire les contacts sociaux, donc entre 18h et 20h. Le Premier ministre a invité les commerces à ouvrir plus fréquemment entre midi et 2 pour éviter des rassemblements trop importants à la fin de la journée. Dès que possible, il incite également les commerces à ouvrir le dimanche pour compenser leur baisse d'activité. Mais attention, ce nouveau couvre-feu n'interdit pas un reconfinement, comme vous l'avez entendu juste avant. Si les courbes de contamination devenaient plus inquiétantes dans les prochaines semaines, le gouvernement n'hésitera pas à acter un troisième confinement sur l'ensemble du territoire.
Alors en revanche, Victor, les écoles restent ouvertes, contrairement à beaucoup de nos voisins. Choix assumé, mais avec un protocole sanitaire renforcé.
Oui, Jean Castex a pris l'exemple de l'Allemagne, du Royaume-Uni, du Danemark, de l'Italie, qui ont décidé de retarder la rentrée des classes au retour des fêtes ou de fermer tout simplement les écoles. Le gouvernement ne veut pas le faire pour le moment. En revanche, le protocole sanitaire sera renforcé, notamment dans les cantines. On le sait, les repas sont vraiment le moment le plus à risque pour les contaminations. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a donc expliqué qu'il n'y aura pas de brassage possible entre les élèves de différentes classes. Les enfants déjeuneront donc avec leurs camarades de la même classe. Il y aura aussi davantage de services pour laisser le moins d'élèves possible dans les réfectoires. Des repas emportés pourraient être actés dans certaines écoles, mais ce sera décidé au cas par cas. Toutes les activités sportives extrascolaires en intérieur sont désormais interdites. Pour les lycéens, l'enseignement hybride, c'est-à-dire à moitié en présentiel et à moitié en distanciel, reste la norme. Ça deviendra également une possibilité pour les élèves de 4e et de 3e. Enfin, 300 000 tests seront réalisés chaque semaine dans les établissements scolaires pour surveiller au plus près les contaminations.
Merci Victor Delande.
Et sur ce protocole sanitaire renforcé dans les écoles, écoutez la réaction à l'instant de Bruno Bobkiewicz. Il est représentant du syndicat des proviseurs SNPDEN et lui-même proviseur à Vincennes en région parisienne.
Sur la cantine scolaire, objectivement, je ne vois pas quelle est la marge de manœuvre supplémentaire. Tout ce qui avait déjà pu être mis en œuvre depuis le deuxième confinement l'a été. Hein. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse aller plus loin. J'ai entendu la possibilité qui a été donnée concernant les repas à emporter. On a quand même des normes d'hygiène qui s'imposent aussi dans les établissements scolaires. Hein. Donc on ne peut pas déjeuner n'importe où. Et d'ailleurs sous la surveillance de qui hein, donc c'est ça aussi, ça pose question sur la faisabilité de la demande. Aucune évocation préalable concernant l'EPS, par exemple. Hein, donc ça veut dire que là, il faut qu'on réfléchisse à comment on réorganise le temps scolaire. Est-ce qu'on fait des modifications d'emploi du temps? Est-ce que les professeurs d'EPS doivent prendre les élèves en classe et proposer d'autres activités à la place?
La réaction d'un proviseur joint à l'instant par Virginie Riva. Et puis le gouvernement a aussi donné des précisions sur la reprise progressive des étudiants. Vous savez que l'absence de cours en présentiel depuis le mois d'octobre suscite un mal-être croissant chez les jeunes concernés. Eh bien, le gouvernement permet un retour extrêmement progressif à l'université en première année, par demi-groupe et dans les travaux dirigés. Le ministre de la Santé, lui, est revenu sur la vaccination pour les moins de 75 ans hors EHPAD, qui sera possible, vous le savez, dès lundi. Avec cette annonce, pourront également être vaccinées quelques 800 000 personnes atteintes de maladies graves qui les rendent vulnérables. Ces personnes pourront s'inscrire dès demain sur le site internet du gouvernement santé.fr, qui a été pris d'assaut aujourd'hui. Son ouverture a été reportée. Et puis ça y est, Julien, on a enfin le numéro de téléphone, le 0800 009 110. On vous le met bien sûr sur notre site internet europe1.fr.
Jean Castex, qui a également, Isabelle, indiqué que tous les dispositifs de soutien seront maintenus aussi longtemps que cela sera nécessaire.
Et on y reviendra donc sur toutes ces annonces dans votre débat du Club des idées d'Europe 1.
Oui, absolument. Avec nos invités, on s'intéressera aussi à la vie quotidienne, votre vie quotidienne. Comment s'organiser pour être rentré à la maison à 18h. En tout cas, on vient de l'entendre, les autorités sanitaires restent très vigilantes et scrutent en particulier de très près l'évolution des fameux variants, le britannique, mais également le sud-africain.
Et on en parle avec notre spécialiste des questions internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors si l'on regarde les chiffres, hein, l'Afrique semble être un continent relativement épargné par la pandémie, sauf qu'en réalité, eh bien, c'est une bombe à retardement.
Et oui, 3 millions de cas officiellement recensés pour 74 000 décès, c'est 5 fois moins que l'Amérique latine. Moins de 4% des statistiques mondiales. Donc oui, effectivement, l'Afrique semble relativement épargnée. C'est parfois expliqué par l'extrême jeunesse de sa population, par un climat a priori défavorable au développement du virus. On peut également penser que finalement, c'est les statistiques qui ne sont pas vraiment fiables. En fait, on n'en sait rien. Le vrai problème, c'est bien cette mutation de la Covid-19 apparue en Afrique du Sud, beaucoup plus contagieuse que la souche originale, également beaucoup plus dangereuse. Et c'est la virulence de ce fameux variant 501 qui fait craindre à nos scientifiques une troisième vague potentiellement difficile à partir du mois de mars ou du mois d'avril. Parce que les derniers pointages réalisés par l'OMS ont déjà détecté ce variant dans 20 pays, dont les Comores. Des Comores, ben ça va passer à Mayotte, de Mayotte à La Réunion, de La Réunion à la métropole. Toutes les mesures que prendra le ministère des Outre-mer pour freiner cette propagation ne pourront pas à terme la bloquer. C'est malheureusement pratiquement mécanique. À l'âge de l'avion, bah, le monde est petit. On ne peut donc pas laisser et rester sans réagir, laisser subsister en Afrique un réservoir de contamination qui menacerait à terme les efforts entrepris en Europe pour maîtriser l'épidémie.
Donc, si je vous suis, il va falloir aider les Africains pour qu'ils puissent accéder rapidement à ce fameux vaccin.
Et voilà, c'est indispensable parce que le seul moyen de contrôler la diffusion de ce virus, eh ben, c'est le vaccin. Les Africains, d'ailleurs, sont attaqués au problème à bras-le-corps malgré des ressources financières limitées. L'Union africaine a négocié avec la Banque mondiale une ligne de crédit pour acheter 270 millions de doses. Alors, ça permettra déjà de protéger 20% de la population sur le continent d'ici à la fin de l'année. C'est un premier pas important, mais d'un point de vue épidémiologique, il faut atteindre un taux de 60% pour envisager un recul significatif de la maladie. Donc il va falloir aider l'Afrique à mener cette campagne massive de vaccination. Et ça sera d'ailleurs un excellent investissement parce qu'en fait, il s'agit d'une mesure de protection sanitaire de l'ensemble de la population mondiale.
Message entendu. Merci mon cher Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs, vous le savez, dans le journal de 19h.
Puisque vous parliez à l'instant de la circulation du virus d'un pays à l'autre, Jean Castex a également annoncé le renforcement des contrôles aux frontières pour les personnes venant d'un pays hors de l'Union européenne. Il faudra présenter un test PCR négatif et s'engager à rester à l'isolement 7 jours.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal à 19h11 avec Isabelle Millet. Il s'agit d'une des plus importantes saisies d'armes jamais réalisées en France. Un réseau vient donc d'être démantelé par la brigade de répression du banditisme. Sa particularité, plusieurs de ses membres étaient des militaires.
Oui, et notamment deux militaires encore en activité, Chloé Triomphe.
Oui, deux militaires dont l'un serait en poste au ministère de la Défense et l'autre affecté sur une base en France. Mais ce n'est que la partie visible d'un réseau très organisé selon une source proche de l'enquête, puisqu'en garde à vue depuis mardi se trouvent aussi d'anciens militaires, un emploi jeune de la police ou encore des personnes travaillant dans le domaine de la sécurité. Au total, 10 personnes dont deux membres présumés de l'extrême droite dont l'un fiché par les services de renseignement. Tout ce petit groupe est soupçonné d'avoir acheté et remilitarisé des armes pour les revendre avec un système de distribution qui irrigue toute la France, à commencer par la région parisienne. Les enquêteurs en ont saisi des centaines et continuent à en faire le décompte précis, mais les premiers éléments laissent entrevoir un volume hors norme d'armes mises à disposition de toute nature et de toute catégorie, que ce soit des armes de poing, des fusils d'assaut, des munitions ou encore de la poudre.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Et les sports, ça va nous faire du bien de parler un peu de sport et d'autres choses. Le coup d'envoi ce soir du mondial de handball qui se dispute en Égypte, tiens.
Et la France affronte ce soir la Norvège à partir de 20h30. Les Bleus qui traversent une période sportivement compliquée et qui doivent en plus s'adapter à la situation sanitaire qui perturbe l'organisation de la compétition, Axel May.
Oui, de leur hôtel, les Bleus ont vu sur les pyramides et c'est à peu près tout ce qu'ils verront de l'Égypte. Depuis leur arrivée, mardi au Caire, ils sont confinés, vivent dans une bulle sanitaire. Il faut dire que deux équipes, la République tchèque et les États-Unis, ont déjà déclaré forfait trop de joueurs positifs au coronavirus. Les autorités locales espéraient autoriser une jauge réduite. Finalement, ce sera 8 clos généralisés. À cette incertitude sanitaire s'ajoute l'incertitude sportive, car les Bleus sont en plein doute depuis leur élimination historique dès le premier tour du championnat d'Europe il y a un an. Et ils sont en plus privés sur blessure de leur star Nicolas Karabatic. Le nouveau sélectionneur, Guillaume Gilles, fait profil bas au moment d'entamer ce mondial égyptien.
Il est permis et il est autorisé de rêver. Et en même temps, le principe de réalité de nos deux dernières performances nous ramène au travail qui nous reste à accomplir avant d'être en mesure d'à nouveau briguer les premiers rôles.
Pour leurs deux seuls matchs de préparation, les Bleus ont enregistré une défaite et concédé un nul face à une formation serbe, même pas qualifiée pour le Mondial. Ce soir, en guise de hors-d'œuvre, ils vont affronter les Norvégiens, double vice-champion du monde, et peu d'observateurs donnent les Français gagnants.
Eh bien, on verra ça. Merci Axel May. Le coup d'envoi, c'est à 20h30.
Et puis Norvège-France, rendez-vous à 20h30 pour le coup d'envoi, vous l'avez dit, non ?
Oh,
pardon, j'ai un peu la tête en l'air, vous m'excusez Isabelle.
Je vous excuse tout à fait.
Merci Isabelle, je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain à partir évidemment de 18h et ce sera vous d'ailleurs, comme chaque vendredi, qui sera aux manettes de ce 18-20. Un petit coup d'œil au temps avec Anissa. Pourquoi vous rigolez ? Parce que j'ai un temps de retard. 11 départements en vigilance orange, Anissa.
Oui, soyez prudents. Du Pas-de-Calais à l'Alsace, en passant par la Lorraine et jusqu'au territoire de Belfort, la neige est tombée aujourd'hui avec de forts cumuls. De nombreux centres-villes sont blancs. Eh bien, sachez que ça va continuer demain. Prudence, parce qu'en plus de cet épisode neigeux remarquable, le froid est de retour et le risque de verglas sera important d'ailleurs sur les nombreux départements du Nord-Est. Notez que des restrictions de circulation sont mises en place et que l'arrêt de la circulation des bus scolaires aussi est annoncé, donc renseignez-vous près de chez vous. Demain, dans le centre-est, nous aurons quelques flocons en plaine. Sur la moitié sud, le ciel est gris avec des averses. En Corse, les orages se développent. Au bord de la Méditerranée, nous aurons du vent fort, toujours la tramontane. Bon, le soleil sera quand même bien présent, mais le vent souffle et chasse les nuages. Et puis dans l'après-midi, c'est sur la moitié nord qu'il fera le plus beau. Au nord de la Loire, nous aurons une journée ensoleillée et lumineuse. Les températures, moins 4 à 8 degrés demain matin, moins 1 à 13 degrés demain après-midi. C'est au nord-est qui fera le plus froid.
Vous dites ça avec une petite voix, genre satisfait, c'est honoré, ce qui fera le plus froid.
J'essaye de garder le sourire malgré tout.
Mais vous avez raison, essayons de garder le sourire. Merci Anissa.
Bonne soirée.
À demain pour le 18-20. Julien Bugier. On marque une pause, on se retrouve dans quelques secondes. On va revenir sur les annonces évidemment de Jean Castex dans le grand débat du Club des Idées avec nos invités. On va vous aider, tiens, à anticiper en vue de ce couvre-feu national à 18h. Comment faire ses courses, comment gérer son temps libre avec son employeur. On vous donne toutes les clés, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Oui, ce soir dans le débat du Club des Idées, on va donc s'intéresser à ces annonces de Jean Castex et aux conséquences de ce couvre-feu avancé à 18h. C'est vrai que ça va sérieusement bouleverser nos vies, notre quotidien pour les courses, les enfants, le travail. Pas simple, effectivement, d'être rentré à la maison à 18h. On va tâcher donc de vous aider pour vous organiser. On va parler aussi de l'impact de tout cela pour nos amis commerçants. On en parle ce soir avec Laurence Breton-Cueny. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-présidente de l'ANDRH, comme son nom l'indique, c'est l'association national des DRH. On en parle également avec Frédéric Lapostol. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de médecine d'urgence à SAMU 93. Et puis on en parle avec Francis Palombi, qui va nous retrouver dans quelques secondes, qui est président de la Confédération des commerçants de France. Peut-être un premier mot de réaction, Frédéric Lapostol. Comment accueillez-vous d'abord ces annonces?
Bon, d'abord, ce n'est pas une énorme surprise. Hein. Ça fait plusieurs jours qu'on s'attendait à une augmentation des restrictions ou une diminution des libertés. Et j'ai entendu le début de la présentation de ces nouvelles mesures. On voit bien que c'était un jeu d'équilibriste entre les écoles et les variants.
Oui.
Et donc les écoles incitaient à plus de liberté et les variants à plus de restrictions. Donc on est sur une corde raide et sur un fil.
Vous observez, vous, dans votre métier de professeur de médecine, vous observez une recrudescence des contaminations, des personnes qui arrivent aux urgences, qui arrivent en réanimation, qui sont hospitalisées?
Alors, il y a une augmentation discrète. Hein. D'ailleurs, tout le monde dit que l'augmentation est discrète. Il y a l'eau monte lentement. Effectivement, elle monte actuellement. Mais probablement que si elle monte, c'est le premier réveillon.
Ouais.
Parce que la vague qui pourrait être associée au deuxième réveillon, c'est 5 jours d'incubation. Les formes graves, c'est plutôt au 10e jour. Vous voyez, le 15, ça pourrait arriver. Si vague il y a liée au 31 décembre, elle va plutôt arriver dans les jours qui viennent.
Donc c'était des mesures nécessaires
C'est des mesures, je pense que là on est plutôt, est plutôt dans le principe de précaution, ça a tendance à monter et il y a une énorme crainte qui est celle de l'arrivée du variant britannique,
beaucoup plus contagieux. Sud-africain d'ailleurs, dont on ne sait pas s'il est plus létal ou non pour l'instant que la Covid actuelle.
Alors c'est contre-intuitif, mais il vaut beaucoup mieux un virus deux fois plus mortel qu'un virus deux fois plus contagieux.
Oui.
Parce que à terme, le nombre, c'est mathématique, 6000 patients contamine 1000 patients et que la mortalité passe de 1 à 2 par exemple,
oui.
Donc tous les 1000 vous avez 2 décès. Mais si on a deux fois plus de contamination, 1000 patients à mort, 2000 patients de mort, 4000 patients 4 morts, 8000 patients 8 morts, 16000 patients 16 morts, et ça se fait à toute vitesse.
Compter, c'est sans compter sans les mesures de restriction. Si demain on reconfine parce qu'on voit que les contaminations augmentent, on peut limiter.
Bien sûr, bien sûr, mais ça flambe. Vous avez vu comment ça a flambé chez les Britanniques, parce que quand je dis 1000 contaminations, c'est le temps d'incubation plus les 3-4 jours pendant lesquels on est contagieux. Donc il y a quasiment tous les 10 jours, on peut doubler. Donc je pense que ça a largement présidé aux décisions de ce soir.
Mais nos amis britanniques, on a beaucoup de respect pour eux, on pense évidemment à eux dans ce moment difficile, on a un peu joué avec le feu. D'abord leur Premier ministre
depuis le début, on est d'accord.
La mesure des choses, et puis le masque n'est toujours pas obligatoire, on rappelle en Angleterre. 19h22, je voudrais vous faire écouter d'abord l'annonce principale de Jean Castex, et puis on va aussi parler de votre quotidien. À 18h, comment s'organiser? Écoutez le Premier ministre.
Sur l'ensemble du territoire métropolitain, le couvre-feu s'appliquera à compter de 18h à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours. Dans son dernier avis, reçu hier soir et qui sera rendu public très rapidement, le Conseil scientifique a du reste confirmé l'utilité du couvre-feu dans la lutte contre la pandémie.
Alors, Laurence Breton-Cueny, vous êtes vice-présidente de l'Association nationale des DRH. Ça va demander quelques assouplissements, ça, de la part des entreprises?
Bien, d'une part, bonjour. Alors l'assouplissement, il faut dire qu'on a quand même déjà des départements qui ont couvre-feu à 18h.
25 départements, oui.
Voilà, donc pour certains d'entre nous dont je fais partie, on a déjà des sites concernés.
Et alors, comment ça se passe alors? Ça se passe bien?
Eh bien, on fait quelques attestations dérogatoires, puisque oui. certaines personnes peuvent être en visite chez des clients et ne pourront jamais être de retour chez elles à 18h. Donc on essaye de respecter pour la majorité. La problématique que je vois plutôt pour ceux qui sont en Île-de-France, c'est la question du temps des transports. Parce qu'en fonction de votre situation géographique, même si vous avez des horaires de bureau, nous on a un grand aléa avec les transports en commun.
Est-ce qu'il faut être rentré chez soi à 18h ou il faut quitter le boulot à 18h?
Non, il faut être rentré chez soi à 18h et c'est là où est
donc
le problème.
Donc ça veut dire qu'il faut anticiper le temps de transport.
Ben oui, finalement, on pénalise quelque part ceux qui habitent loin. Et c'est le cas beaucoup en Île-de-France où les temps de trajet sont supérieurs généralement à la province, parce que c'est 18h chez soi.
Mais pas que, hein. Bordeaux, oui, Lyon, oui, même sûr. Dans des villes comme Tours, Orléans, Brest, il y a quand même des... Quand on habite à 30 km de son lieu de travail, s'il y a un petit peu d'embouteillage, ça complique les choses. Est-ce que les entreprises vont être évidemment souples sur la liberté qu'elles vont pouvoir donner à leurs salariés pour rentrer plus tôt?
En réalité, non, on ne va pas être souple parce que le couvre-feu demande vraiment des dérogations particulières. On le fera qu'en cas de nécessité. Nous, on a toute une liste qui a déjà été faite pour 20 heures. Mmh. Parce qu'en Île-de-France, 20 heures chez soi, parfois en fonction de son activité, c'est compliqué.
Oui.
Mais en tout cas, on a pris la décision que ce soit vraiment... strict.
Et je parle sous votre contrôle, Laurence Breton-Cuny, mais il y a déjà un certain nombre d'entreprises qui sont quand même toujours en télétravail, normalement.
Oui, mais en fait, le protocole sanitaire s'est assoupli. Certains d'entre nous, pour des questions de santé mentale et de confort, avaient déjà des retours sur site. D'ailleurs, on l'avait vu au travers des chiffres. Et le dernier protocole sanitaire du 6 janvier permettait à tout à chacun de revenir un jour.
Mais est-ce que pour une entreprise, il vaut mieux, par souci de productivité et d'efficacité, il vaut mieux laisser son salarié, son employé en télétravail ou le faire venir au bureau, quitte à le laisser partir plus tôt pour qu'il puisse être de retour à la maison à 18h?
En réalité, on commence à voir dans certaines entreprises une distanciation du lien social et il faut que les personnes puissent, parce que là, ça va quand même, on va arriver à un an bientôt, il faut que les personnes reviennent à minimum. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut arriver tôt, hein, puisque je ne pense pas qu'ils aient changé l'heure du matin. Hein, donc, si on est toujours sur 6h, 18h, ça permet mais des plages plus courtes. Ça veut dire que pour ceux d'entre nous qui sont en horaire de jour, il faudra qu'on voit comment comptabiliser le temps.
Mais est-ce qu'on peut imaginer que les gens commencent le travail plus tôt pour quand même faire leurs heures ou faire le travail qu'ils vont accomplir?
Ou alors, on l'a déjà fait pour certains d'entre nous pendant les problèmes de grève des transports, on compense le temps.
Pour permettre le maintien. De quelle manière?
C'est très simple. Vous calculez le temps de transport que la personne est obligée de repartir plus tôt. Et je dis n'importe quoi. Vous dites qu'elle a fait 6 heures et vous considérez qu'elle a fait ses 7h30 dans la journée.
Oui.
Ça, on peut le faire. Ça a la main, effectivement, de la direction. Mais ça n'empêche qu'on a d'autres personnes qui sont sur des temps différents.
Voilà. Il y a plein de gens qui nous écoutent, là, évidemment, et qui sont, comme tous les Français, qui se disent « Moi, comment je vais faire avec mon patron, mon employeur ?» Alors, c'est vrai pour les grandes entreprises, c'est vrai pour les cadres, c'est vrai aussi pour les employés, pour les salariés, pour les ouvriers. Qu'est-ce qu'ils doivent faire là, d'ici lundi? Parce que ça rentre en vigueur à partir de samedi. Qu'est-ce qu'ils doivent faire?
En général, dans les entreprises où il y a des DRH, on a des plans de continuité d'activité. Je fais référente Covid. Demain matin, le COMEX se réunit et on va prendre nos décisions.
Donc il y a un mail qui est envoyé à l'ensemble des salariés?
Alors, en fait, on
une
prend
communication.
Une décision. Oui, il y a des SMS, des mails. Il va y avoir notre décision qui va être communiquée à tous, qui va prendre en compte tous les paramètres.
Oui, c'est important d'être très concret ce soir. Je vous en remercie. Vous restez évidemment avec nous. On se retrouve dans quelques secondes à 19h27 avec nos invités. On va être en liaison avec Francis Palombi qui a quelques petits problèmes de transport. Mais il va nous expliquer aussi comment vont s'organiser nos amis commerçants. Il est président de la Confédération des commerçants de France. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
En 19h30 tout pile, on continue le débat du Club des Idées. Et ce soir, on s'intéresse donc aux conséquences de ce couvre-feu pour nos vies, pour vos vies, qui est avancé à 18h pour l'ensemble du pays. À partir de samedi d'ailleurs, hein, notez-le bien dans vos agendas, à partir de samedi, 18h pour tout le monde, il faut être à la maison, et cela pour au moins 15 jours, a prévenu le Premier ministre. Et on est donc avec Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. Bonsoir Monsieur Palombi.
Bonsoir.
Votre réaction bonsoir d'abord, tout simplement, j'imagine que vous êtes effondré.
Ah, je ne suis pas effondré, je suis soulagé, monsieur. Je vous surprends peut-être par mon propos. Pourquoi? Tout simplement parce que, en pure logique et en pur bon sens, ce qui eût été, ce qui m'aurait effondré, c'est d'entendre le Premier ministre décider d'un confinement total, d'un troisième confinement.
Oui.
Ça aurait voulu dire que tous les commerces auraient dû fermer, dit non essentiel, ce n'est pas le mot qui nous plaît le plus. Et là, non, il y a un couvre-feu généralisé, il y a des mesures sanitaires draconiennes que nous devrons respecter parce que c'est une crise terrible, c'est une pandémie qui détruit bien sûr l'économie, mais qui détruit aussi des vies humaines. Et ça, c'est très important.
Vous avez raison de le rappeler, donc, M. Palombi, mais je disais effondré, parce que c'est vrai que le choc va quand même être terrible pour la grande distribution, mais pour les petits commerçants et les commerçants que vous représentez, on estime qu'un tiers, par exemple, des achats se font entre 18h et 20h. Ça veut dire que ces achats-là, demain, à partir de samedi, ils n'auront plus lieu. Ça va être très, très compliqué pour des secteurs comme l'habillement, par exemple.
Vous avez raison, vous raisonnez d'une manière très logique, mais moi je vous rajouterai un autre aspect. Les commerçants sont des battants, ce sont des gens qui veulent rester ouverts, qui veulent travailler. Ils vont ouvrir entre midi et deux, j'en suis convaincu, nous le leur avons dit, d'ailleurs le Premier ministre l'a même rappelé lui-même. Ils vont ouvrir peut-être une heure plus tôt le matin, tous les dimanches du mois de janvier, avec toute facilité de la part des préfets et avec une impulsion de l'État, de Alain Griset, notre ministre, dédié au commerce et aux PME, eh bien, les préfets vont donner des autorisations très facilement pour ouvrir tous les dimanches, y compris à partir du 20 janvier pour les soldes. Donc, ce sont des éléments qui vont quand même contribuer à atténuer un tout petit peu le couvre-feu. Et on a estimé, avec quelques fédérations que j'ai interrogées, qui ont des adhérents dans les zones déjà au couvre-feu à 18h. Et on imagine que ça représentera à peu près entre moins 15 et moins 20% sur le chiffre d'affaires.
Alors, pour que chacun comprenne quand même, Francis Palombi, je voudrais partager avec nos auditeurs le témoignage du gérant d'un bureau de tabac qui se trouve à Paris et qui, lui, réalise, comme je le disais, pour le commerce de détail et notamment l'habillement, une grande part de son activité après 18h. Il est évidemment très inquiet pour la suite. On l'écoute.
Et là, pour être à 18h chez eux, tous ceux qui sont en voiture, bah déjà, ils ne s'arrêteront pas parce que, vu les trafics, vu les bouchons, ils vont partir de bonne heure où ils font du télétravail. Et puis, ils vont plutôt faire leurs courses pour acheter à manger ou leur pain ou les tabacs. Et puis, on perd aussi du jeu, parions sportifs, parce que les gens, tous les joueurs aiment bien jouer en dernière minute pour savoir les compensations des équipes. Donc, ça impacte beaucoup de monde. Du coup, là, j'étais un des gros tabacs de France et je deviens un petit tabac de quartier.
Voilà, il a déjà perdu, ce monsieur, je le précise, hein, 40% de son chiffre d'affaires avec le couvre-feu à 20h. Mais vous, ça ne vous inquiète pas trop, Francis Palombi. Vous dites, non, en fait, c'est un mal pour un bien.
Non, ce n'est pas peut-être un mal, jusqu'à dire un mal pour un bien. Il ne faut pas dire que ça ne m'inquiète pas. Le chiffre d'affaires perdu, le temps perdu ne se rattrape pas et le chiffre d'affaires perdu, difficilement. Mais je veux dire par là, c'est un moindre mal que le Premier ministre n'ait pas annoncé un confinement total. Et c'est ce que je veux dire à ce buraliste. La Fédération des buralistes Île-de-France fait partie de la Confédération des commerçants de France. Ce sont des amis. J'ai 19 fédérations professionnelles différentes les unes par rapport aux autres, alimentaires, non alimentaires, hôtels, restaurants. C'est un drame pour eux. Eux, ils sont fermés. Eux, ils sont vraiment fermés depuis des semaines. Vous vous imaginez la détresse de ces gens-là ne peuvent plus, depuis plusieurs mois, ouvrir leur magasin. Alors, c'est pour ça que je relativise et surtout, je veux faire apparaître qu'on ne peut pas se jouer du sanitaire. On ne peut pas dire on n'en a rien à foutre. Après tout, le gouvernement nous confine à 18h, c'est une catastrophe. C'est vrai que ça affecte le chiffre d'affaires des commerçants. Mais je sais également, parce que je suis en relation avec les ministères tous les jours qui s'écoulent, que le gouvernement, et Bruno Le Maire a été très clair ce soir, le gouvernement va continuer à soutenir les entreprises, même au cas par cas. Je ne veux pas faire de défaitisme, je ne veux pas atténuer encore davantage le moral de mes amis et de mes commerçants que je soutiens
et
pour lesquels je me bats tous les jours. Je vous assure, les soldes vont être reportés, sont reportés grâce au ministre des PME Commerce, M. Alain Griset, au 20. Bon, ça nous permet d'attendre quelques semaines et d'être un peu moins affectés pendant les soldes d'hiver. J'essaie de positiver.
D'être positif. Et vous avez raison. Moi aussi, je suis résolument optimiste. Généralement, dans la vie, vous avez raison de l'être, Francis Palombi. Vous restez évidemment avec nous parce que je voudrais quand même vous demander si vous n'avez pas peur que les achats se reportent d'abord sur la grande distribution qui, elle, désormais peut vendre aussi des vêtements, des produits divers et variés, et puis aussi sur les plateformes. Je sais qu'on en avait beaucoup parlé il y a quelques semaines ensemble, Francis Palombi. D'abord, réaction de Frédéric Lapostol, vous êtes professeur de médecine d'urgence SAMU 93. Il y a un aspect quand même dans ce changement du couvre-feu à 18h qui va avoir un impact sur notre vie quotidienne, c'est l'impact psychologique. Vous en parliez tout à l'heure et on en a beaucoup parlé pour les étudiants, pour les universitaires, mais aussi pour tout à chacun. Rester chez soi, ne plus avoir la liberté d'avoir un petit peu de temps pour faire du sport, pour aller se divertir, pour prendre l'air, ça, ça a un coût aussi
on
social.
On peut faire la liste du coût. À côté du coût sanitaire, il y a un coût scolaire, hein. On a bien entendu que c'était une des priorités dans les décisions du jour. Il y a un coût psychologique, il y a un coût économique, et malheureusement, pour l'instant, le confinement qui dit plus ou moins son nom, quoi, le couvre-feu ou le confinement, ne sert qu'à nous permettre de passer un cap. Et en fait, le message aujourd'hui pour moi, il est clair. Devant les difficultés sanitaires, psychologiques, économiques, sociales, scolaires, etc., la seule réponse, c'est la vaccination.
Oui.
Et là, clairement, il faut changer de vitesse. Hein, à la vitesse à laquelle on vaccine 1 million par mois, on n'aura pas l'immunité collective avant plusieurs années. Donc il faut tout de suite passer à la vitesse supérieure si on ne veut pas rester dans cette situation qui met tout le monde dans la détresse.
Oui. On va passer un petit coup de fil à Boris Itamar, qui est coach de vie, voilà, et qui aide les familles aussi au quotidien à trouver des astuces pour aller mieux. Bonsoir, cher monsieur.
Bonsoir, merci à vous de me recevoir dans votre émission.
Ben, merci de nous accorder quelques instants. Alors, quel conseil, vous, à l'aune de ce couvre-feu à 18h, vous pourriez donner à nos auditeurs et à nos auditrices?
Alors déjà, il faut prendre déjà en considération le caractère particulier de cette situation. Je pense qu'on est tous réellement conscients et il va falloir faire preuve d'une forme, je dirais, d'adaptabilité. Alors, donner un conseil qui serait parfait, qui serait opérant pour l'ensemble des personnes serait un petit peu compliqué. Mais je pense surtout qu'il faut peut-être voir une forme de réorganisation et peut-être essayer de se dire, de voir l'opportunité de cette période. Alors, vous allez me dire, effectivement, une opportunité, mais on souhaite tous peut-être, les auditeurs qui nous écoutent, ben, peut-être rentrer une heure plus tôt. On s'est tous déjà peut-être dit, ben, qu'est-ce que je pourrais faire de cette heure ?
Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Eh bien justement, ben, je vous invite justement à ouvrir un petit peu cette forme de créativité. Je suis sûr que nombre de nos auditeurs souhaiteraient peut-être faire de la peinture, peut-être de l'argile, ou même peut-être, souvent on a tendance à le dire, je souhaiterais faire des plats un peu plus élaborés, ne pas réchauffer ce plat qu'on a tendance à prendre parce qu'on rentre tard, qu'on a une activité professionnelle qui est prenante, mais peut-être se dire, je vais profiter de ce moment pour dire peut-être me rapprocher plus de certaines choses qui sont importantes pour moi, finalement que j'ai peut-être un petit peu mis de côté aussi, par notre vie et par notre quotidien, et peut-être plus essayer de voir cet aspect positif, c'est-à-dire
être créatif.
Complètement être créatif. Alors évidemment, ça passera par une forme de réorganisation des structures familiales ou de certains cadres, parce qu'on va devoir peut-être redéfinir certains espaces dans nos lieux de vie, peut-être qu'on va y passer plus de temps, et je pense que tout ça est déterminant. Mais il va falloir peut-être se dire, se réunir autour d'une table, et dire comment on peut essayer de, ensemble, redéfinir notre intérieur, redéfinir notre quotidien, trouver des activités qui peuvent être ludiques, qui peuvent être pratiquées en famille. Souvent, on a tendance à rentrer un petit peu tard, à avoir nos enfants sur des écrans, peut-être ne pas hésiter à faire des jeux de société, toutes ces choses qu'on a tendance à dire, je ne peux pas le faire, je n'ai pas ce temps disponible pour les miens, pour les proches.
Alors, merci pour ce conseil, Boris Itamar. Merci d'avoir pris quelques instants pour ces conseils. Laurence Breton-Cuny, on va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants, mais je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Ça veut dire qu'il ne faudra pas demander aux salariés de travailler une fois qu'ils rentrent chez eux à 18h. Et là, vous me répondez ?
Je ne suis pas maître de ce que font les salariés de leur temps chez eux.
Je ne vous vois pas derrière votre masque.
Non, mais là, on n'entend pas.
Si, on est à l'antenne. Bon, on en parle juste après la pause. 19h40, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h42, on est toujours ensemble dans le débat du Club des Idées et on parle évidemment de l'impact et des conséquences de ce couvre-feu avancé à 18h pour tous les Français à partir de samedi et pour au moins 15 jours, nous a dit le Premier ministre. Et c'est vrai qu'il y a une forme quand même de lassitude depuis maintenant 9 mois de la part des Français avec l'accumulation de ces mesures, le confinement, le masque, le couvre-feu. Je vous propose d'écouter ces quelques Français à Sarreguemines en Moselle au micro d'Arthur Elmbachet.
Bien sûr que c'est énervant. Moi, je travaille toute la journée, donc forcément, en rentrant, j'ai pas le temps d'aller faire mes courses.
Vous allez faire quand vos courses ?
Ce week-end, comme tout le monde. Il y a le risque de se retrouver avec énormément de personnes, du coup. et d'avoir beaucoup plus de contamination. On a l'impression qu'on ne pourra plus jamais avoir une vie normale.
Francis Palombi, vous êtes toujours avec nous, président de la Confédération des commerçants de France. Rebonsoir. C'est un risque, ça, quand même, qu'il y ait une surfréquentation dans un temps relativement réduit des gens dans les magasins.
Absolument, parce que depuis que les confinements ont sévi, on a réduit les rayons dans les grandes surfaces pour le deuxième confinement, et c'était une bonne chose sur le plan sanitaire, et nous avons milité pour cela. Le Premier ministre a dit ce soir quelque chose qui m'a interpellé, et ça peut-être un peu rassurer, parce qu'il faut retrouver cette confiance parfois perdue. Eh bien, le Premier ministre a dit « nous allons renforcer les contrôles au niveau de la jauge, particulièrement dans les grandes surfaces ».
Normalement, c'est une personne pour 8 mètres carrés. Hein.
Voilà, c'est une personne pour 8 mètres carrés, y compris pour les très petites entreprises qui ont des magasins pas très importants. Alors, ça filtre beaucoup la clientèle, il y a des queues devant les magasins, mais il vaut mieux faire la queue un quart d'heure et se protéger et protéger les autres, comme on le dit ici souvent. Je pense que j'ai été frappé très positivement par le médecin qui a pris la parole avant la pause et qui a dit inventivité. Parce que il y a les commerçants, comme on l'a dit tout à l'heure, qui peuvent ouvrir d'une manière plus longtemps, peuvent ouvrir le dimanche.
Oui, le dimanche et entre midi et deux,
Voilà, entre midi et deux, mais également tous les dimanches de janvier. Donc, pour rassurer cette dame, il y a aussi des entreprises qui réaménagent les horaires de leurs salariés. Et puis, j'ai entendu aussi qu'il allait y avoir enfin des contrôles beaucoup plus stricts
aux frontières.
Au niveau des frontières.
Absolument.
Donc, l'État a quand même le souhait de ne pas confiner une troisième fois à 100%, sans l'écarter à 100% parce qu'on est face à une pandémie, on est face à un problème.
Bon, on ne le souhaite pas en tout cas, et on ne vous le souhaite pas pour les commerçants. Frédéric Lapostel, professeur de médecine d'urgence SAMU 93, toujours à mes côtés dans le studio d'Europe Soir. C'est vrai qu'il peut y avoir une surfréquentation des Français dans les magasins au moment d'ouverture, parce que par définition, mécaniquement, on réduit le temps d'ouverture, donc les gens vont y aller dans un temps plus court. Mais il y a aussi la question des transports, et on pense notamment aux zones urbaines, Lyon, Paris, Marseille, Bordeaux, les bus, les tramways, les métros, ça représente un risque de contamination, ça ?
Oui, on sait bien que toutes les interactions sociales favorisent la contamination. D'ailleurs, la raison d'être de l'anticipation de ce couvre-feu, c'est simplement pour réduire les interactions sociales et les tentations de passer deux heures avec des collègues ou des amis avant de rentrer à la maison.
Donc
pour
quoi ? On va plutôt travailler en vélo, à trottinette, en voiture
Alors, c'est peut-être pas la meilleure saison pour aller travailler en trottinette et en vélo.
Ah, moi, je viens tous les matins en vélo, je vous jure que ça se passe bien.
Eh bien, tant mieux. Non, la solution va essentiellement venir des entreprises, et ça avait déjà été proposé, outre le télétravail, l'étalement des horaires pour éviter que tout le monde commence à travailler à la même heure et finisse à la même heure. C'est ce qui est appliqué dans les écoles, où on fait en sorte que tous les gamins n'aillent pas à la cantine au même moment.
Oui.
Il faut réussir à faire la
même
chose.
Voir, vous avez vu les annonces. Hein. Demain, ils vont déjeuner dans la classe, sous forme de pique-nique, juste entre eux et pas mélanger aux autres.
Ou s'ils vont à
classes.
La cantine, c'est toujours la même classe qui va manger ensemble. Oui. Bon, alors, pour les entreprises, alors c'est facile pour moi qui ne dirige pas une entreprise, évidemment, de le dire, mais il faut aller vers de l'étalement du temps de travail pour pas que tout le monde se retrouve avec une peine supplémentaire qui est des heures de transport bondé et les risques inhérents à cette promiscuité.
Et on en revient à notre discussion de départ. Laurence Breton-Cueny, vice-présidente de l'Association nationale des DRH, vous avez vu, les Français, ils commencent à en avoir marre aussi. Il y a une forme de lassitude qui s'installe. Est-ce que ça, c'est un élément que vous, ressources humaines, directeur des ressources humaines, directrice des ressources humaines, vous prenez en compte aussi dans la gestion de vos collaborateurs ?
Tout à fait. Hein. De nombreuses études parlent des problématiques de santé mentale, à peu près, qui impactent 40% des collaborateurs qui sont en télétravail. Et je ne parle pas de ceux qui ont la crainte de perdre leur emploi. Parce que là, on parle quand même des privilégiés qui ont encore un emploi et qui se déplacent pour l'avoir.
Mais donc, c'est quoi le mot d'ordre demain, là, à partir de lundi, quand le couvre-feu rentre en vigueur à 18h, vous allez dire à tous les DRH de France et de Navarre, dites aux responsables de lever le pied, de ne pas être trop exigeant, d'être flexible, de comprendre les problématiques des salariés ?
Alors, je dirais qu'on va faire preuve d'agilité et d'adaptabilité. Hein. La situation va être différente selon les métiers, selon les entreprises, nos zones géographiques. Mais en tout cas, on laissera toujours la porte ouverte pour ceux qui veulent venir travailler.
Et peut-être le retour du télétravail. Enfin, je veux dire, plus de télétravail. Non, mais on y est déjà. Vous me disiez, on y est à 50% aujourd'hui.
Mais en fait, il y a une différence. Il y a à peu près 45% des métiers qui peuvent télétravailler. Ce qui veut dire que les autres, de toute façon, ne peuvent pas. Donc, ils vont être effectivement dans les personnes se déplaçant. Et c'est pour eux qu'il va falloir une organisation tout différente. Après, dans ces 45% des salariés du privé qui peuvent télétravailler, certains préfèrent revenir sur site, voire ont des obligations de temps à autre.
Est-ce que vous réfléchissez à la manière dont ces nouvelles habitudes de travail, par la force des choses, va modifier le travail demain? Est-ce qu'il y a des choses qui vont rester après la crise Covid?
On a fait un certain nombre d'enquêtes qui montrent que finalement, pour nous, le télétravail idéal serait 1 à 2 jours par semaine, pas davantage, et surtout mobile dans la semaine et optionnel, c'est-à-dire on les prend quand on veut. Parce qu'on se rend bien compte que le fait d'être obligé de télétravailler, on était ensemble la dernière fois où on parlait de sérendipité, le fait d'être seul à travailler chez soi, au bout d'un moment, on manque d'interaction et on manque finalement
aussi,
de créativité. Voilà, c'est important. Donc nous, on travaille et on a beaucoup de thématiques aujourd'hui sur les problèmes de santé mentale. Voilà, donc il faut vraiment qu'on ouvre la porte, même s'il va falloir s'adapter avec ce nouveau couvre-feu.
Peut-être un dernier mot, Frédéric Lapostol, professeur de médecine d'urgence SAMU 93. Vous pensez qu'avec ces mesures, on peut éviter un nouveau confinement?
Écoutez, malheureusement, j'en sais rien. Et si quelqu'un le savait, je pense que les décisions... Si le risque était que ça flambe, on l'aurait fait maintenant.
On a quand même un recul d'expérience là, de quasiment un an.
Le problème, c'est qu'on a un recul dans des situations qui ne sont jamais les mêmes. C'est-à-dire qu'on a le recul d'une première épidémie en n'y connaissant rien, d'une deuxième vague avec des mesures de distanciation des masques, sauf que là émerge le variant et qui apporte une inconnue. Moi, je voudrais finir juste sur un mot d'optimisme.
Je vous en prie.
En disant, la réponse, on l'a aujourd'hui, c'est la vaccination. Et tant qu'on ne sera pas suffisamment à être vacciné, eh bien on va aller en avant, en arrière, sur des mesures de restriction qui sont pénibles pour tout le monde.
Merci à tous les deux. Merci Francis Palombie également d'avoir été avec nous. Et on pense évidemment à tous les commerçants qui vont traverser encore une fois des temps un peu chahutés. Merci à vous.
Difficile. Oui.
Europe 1, Julien Bugier.
19h50, vous restez avec nous. Dans quelques secondes, ce sont les archives d'Europe Soir, comme toujours à cette heure-là. Et ce soir, on vous décrypte une image tristement célèbre, la photo de la petite fille au napalm. C'était au Vietnam en 72. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h52, la suite du Club des idées d'Europe Soir avec les archives. Comme toujours à cette heure-ci, quand le passé éclaire l'actualité, ça s'appelle le jour où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Et ce soir, nous allons nous plonger en janvier 73. Bonsoir Victor Chabert.
Bonsoir Julien.
Il y a 48 ans, ce sont les arrêts des bombardements américains au Vietnam décidés par le président Nixon. Et à cette occasion, vous allez revenir pour nous sur une photo que nous avons tous déjà vue. Celle de la petite fille au napalm, présente dans quasiment tous les livres d'histoire.
Oui, et cette photo a été prise le 8 juin 1972, quelques mois plus tôt. La petite fille s'appelle Kim Phuc, elle a 9 ans, on voit la terreur sur son visage. Elle court sur une route de campagne, les bras écartés, nue, ses vêtements brûlés par le napalm. Autour d'elle, des enfants crient, à l'arrière-plan des soldats, marchent lentement. L'horizon n'est que fumée. Cette photo a été prise à la suite d'une terrible bavure. Les soldats sud-vietnamiens qui combattaient aux côtés des États-Unis ont bombardé non pas des ennemis, mais un temple abritant des civils et leurs propres soldats.
C'est une image qui, à l'époque, fait le tour du monde. Mais pourquoi va-t-elle marquer l'histoire ?
Parce que cette guerre est la première à être médiatisée. Les affrontements sont racontés à la télévision, dans les journaux, à la radio. Pour Europe numéro 1 en 1968, c'est Julien Besançon qui plonge au cœur des combats.
C'est un fusil mitrailleur qui est là, 100 mètres à gauche. Derrière des fils à eau, derrière des arbres dont les feuilles sont comme des toiles d'araignée. On a reçu des tirs un peu toute la journée. Il semble bien que l'unité Viet Cong soit dans la forêt, environ 1500 mètres devant nous.
On est frappé par le récit et le calme de ce journaliste qui est pourtant au milieu des affrontements. Alors, les bombardements cesseront en 73 et les États-Unis se retirent progressivement, mais la guerre entre les deux Vietnams va encore durer 2 ans.
Exactement, jusqu'à la chute de Saïgon en 1975, la capitale sud du Sud-Vietnam où se situe le palais présidentiel. Quand ce dernier tombe aux mains des Vietcong, notre reporter François Ponchelet est sur place en direct.
Ce sont les Vietcong qui arrivent pour recevoir la reddition du général Minh. Les soldats courent pour leur ouvrir les portes du palais. Les chars sont amicaux, ils saluent la population. Incroyable monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? C'est fini la guerre alors?
C'est fini.
C'est l'événement qui lance l'unification des deux Vietnam en République socialiste. Les États-Unis ont perdu cette guerre, le nombre de victimes civiles est considérable. Ce chiffre est encore discuté aujourd'hui, mais il est estimé à plus d'un million de morts.
Un million de morts. Et cette petite fille, qu'est-elle devenue, elle?
Eh bien, brûlée par le napalm, elle survivra. Elle devient alors un symbole de la lutte anti-impérialisme. Puis Kim Phuc s'enfuit et s'installe au Canada, où elle donne naissance à deux garçons. Elle crée ensuite sa fondation pour les enfants victimes de la guerre. En 1997, elle est nommée ambassadrice de l'UNESCO pour la paix. À cette occasion, elle est interviewée au micro de Donna Vidal-Revel sur Europe.
Vous savez, cette photo, c'est de l'histoire. Et maintenant, dans ma vie, aujourd'hui, c'est vraiment important de faire quelque chose de bien pour aider les autres. Cette photo doit témoigner de ce qui s'est passé et on peut apprendre de ce passé.
Encore aujourd'hui, Kim Phuc parcourt le monde pour promouvoir la paix. Kim Phuc, qui se traduit par « bonheur doré ». En vietnamien.
Ça ne s'invente pas. Merci infiniment, Victor, pour ce récit absolument passionnant. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
19h56, dans un instant, le rappel de l'info comme chaque soir, et puis la musique. Émilie Mazoyer, salut Émilie.
Salut Julien.
Quel est le programme ce soir de ton émission?
Ce soir, 14 janvier, marque les 35 ans de la mort au Mali pendant une mission humanitaire en marge du Paris-Dakar.
Ah oui, bien sûr.
Un chanteur pas comme les autres, hein, Daniel Balavoine. Alors, on l'entend chanter merveilleusement.
Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé.
Il y a un journaliste qui s'appelle François Alquier qui a eu la bonne idée de sortir un livre aujourd'hui qui s'appelle Un homme vrai, dans lequel il a contacté tous les proches de Daniel Balavoine, ses copains, sa famille. Et donc le livre, c'est une mine d'anecdotes dont certaines se passent d'ailleurs dans des coins sombres à Europe 1. On en parlera tout à l'heure. Mais bon,
je vois le genre.
Il savait vivre dans les années 80, on ne va pas se mentir. Et voilà, Daniel Balavoine sera évidemment au cœur de l'émission ce soir. Et puis, il y a quand même aussi notre cher Étienne Dao qui fête ses 65 ans aujourd'hui. Donc on écoutera du live.
Génial. Le rendez-vous est pris. J'attends le refrain là. J'attends que ça pousse un peu. Avec,
ah, tu veux le.
Ouais. Mais ça va venir. On va le garder avec moi. Merci Émilie. On se retrouve dans quelques instants. Oui. J'en profite avec cette belle musique pour vous dire un grand merci aussi à vous, amis auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre depuis la mi-septembre. On est très fiers avec les équipes d'Europe Soir. Et on vous en remercie. Regardez, Balavoine aussi, il vous remercie. Voilà, 13 000 auditeurs de plus en quelques semaines. Merci de votre confiance. Très belle fin de soirée avec Émilie Mazoyer, bien sûr. Demain, à cette même place et à ce même micro, ce sera Isabelle Millet qui vous accompagnera pour le 18-20. Merci de votre fidélité une fois de plus et à lundi.